Donc, question ouverte. Oui, déjà une ici. Vas-y.
Bon, alors, je pose la question que j'ai déjà posée, mais tout le monde n'a pas entendu la réponse. Quand il y a des grands plans restants comme ça de Douglas, ça produit, enfin, il y a un surplus d'aluminium dans l'eau consommée au robinet.
Là, vous parlez d'une situation un peu particulière qui se passe sur le plateau de Millevaches, où on sait que les monocultures résineuses créent une acidification du sol. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, on le voit très bien. Et cette acidification du sol va solidifier l'aluminium, qui risque de se retrouver dans les cours d'eau et qui a contribué justement à des pollutions, d'eau. Et de nappes phréatiques, ça a été en tout cas montré et déclaré par plusieurs médecins localement, près de Bugey, à côté aussi non de Tarnac aussi, ou de Faux-la-Montagne. Donc oui, c'est une des conséquences environnementales de la sylviculture industrielle et de la monoculture résineuse. Il manque encore un peu d'études scientifiques pour vraiment faire la causalité. En tout cas, il y a une corrélation très forte. Comme sur ce territoire-là du plateau de Millevaches, donc le Limousin, qui est quand même un des épicentres aussi de la sylviculture industrielle, il y a un autre problème, c'est l'utilisation des engrais phosphatés, notamment sur les bassins versants. Vous savez, il y a beaucoup de lacs dans cette région. Et donc, ça peut produire, on va dire, l'érosion et le fait que des engrais phosphatés se retrouvent dans les lacs, et ben une fine irisation sur la surface, un peu comme les algues vertes qu'on peut voir en Bretagne. Et donc, il y a beaucoup de... localement, il y a à la fois des militants, mais aussi des scientifiques et des chercheurs qui font un lien en fait entre la production, la sylvicole, la sylviculture industrielle et cette pollution des cours d'eau et des lacs. Ouais. Donc c'est une des conséquences écologiques. Il y avait d'autres questions.
Oui, moi c'était par rapport à la forêt privée et à la forêt publique. En fait, la forêt publique est extrêmement morcelée avec énormément de petits propriétaires. Est-ce que quelque part, ce qui paraissait être un handicap il y a 30 ou 40 ans en disant c'est pas possible une forêt aussi morcelée, est finalement pas devenu un rempart contre l'industrialisation ?
Pour la forêt privée, oui, tout à fait. Alors la forêt publique, c'est à peu près 25% de la superficie totale. Mais c'est 40% de la production de bois. Donc on voit que les forêts publiques sont quand même mis à contribution dans la production de bois, plus que la forêt privée qui représente donc 75% de la superficie totale. Et c'est assez intéressant parce que, alors, elle est extrêmement morcelée, mais extrêmement concentrée aussi. C'est-à-dire que 3% des propriétaires possèdent 50% de la forêt privée. 3% des propriétaires possèdent 50% de la forêt privée. Et c'est qui ces 3% de propriétaires ? Bah, c'est les gens dont je vous parlais auparavant, notamment les investisseurs institutionnels qui ont voulu diversifier le portefeuille. Leur portefeuille, il faut imaginer que la forêt, c'est le troisième portefeuille des investisseurs après l'investissement dans l'immobilier ou l'investissement dans le boursier. Et c'est les forêts ensuite qui sont le troisième lieu de portefeuille. Et donc oui, pas mal, je vous parlais d'AXA, je vous parlais de la Société Générale, la Caisse des dépôts et consignations aussi, qui possède plus de 100 000 hectares de forêt. Donc c'est pas rien. Et donc oui, alors il y a aussi quand même une majorité de petits propriétaires, mais qui possèdent moins de 4 hectares. Donc il y a 80% des propriétaires dans les forêts privées qui possèdent moins de 4 hectares. Et ces petits propriétaires, c'est souvent des héritiers, enfin c'est lié à l'exode rural, c'est souvent des héritiers qui ne savent même pas qu'ils ont une parcelle de forêt, qui sont maintenant devenus, on va dire, urbains, qui vivent à la ville, et qui sont parfois démarchés par des coopératives forestières qui leur disent, mais vous savez, vous avez de l'argent là, vous avez de l'argent sur ces 3 hectares là, il faut le rentabiliser. Et eux, vu qu'ils n'ont plus de lien avec le territoire, il n'y a plus de lien charnel, il n'y a plus de lien corporel avec ce territoire, eux, ils s'en foutent en fait. Et donc, et puis ils sont dans l'illusion que le bois, de toute façon, c'est forcément durable, c'est forcément bien, les arbres, c'est bien. Et donc, ils cèdent en fait les droits des coopératives forestières, ils cèdent la gestion à des coopératives forestières contre un chèque. Et donc... aussi la petite propriété morcelée, quand on est éloigné de son territoire, c'est pas forcément bien. Et ce qui est certain, c'est que les sylviculteurs industriels poussent à l'agrandissement et à la concentration. Ça, c'est clair. Et donc, c'est pour ça que depuis une récente loi, la loi d'avenir sur l'agriculture, où il y a aussi eu quelques amendements sur les forêts poussés par quelques industriels, et ben ils ont accès au cadastre. Contrairement notamment aux associations qui veulent accès au cadastre. Donc ils peuvent aller démarcher directement aussi les gens, plus facilement. Et donc ça, c'est une nouvelle avancée pour éviter le morcellement et pour que les grandes propriétés s'agrandissent. Et par contre, les groupements forestiers indépendants et citoyens, eux, ont beaucoup plus de mal à savoir qu'est-ce qui se vend, où ça se vend. Et donc, oui, il y a deux poids, deux mesures.
Oui,
j'ai du coup deux questions, mais la première, c'est sur les initiatives privées d'achat et de gestion collective de forêts, mais par des individus qui se regroupent, et le lien avec le CRPF, si vous pouvez nous en parler un peu plus. Ouais. Et la deuxième question, c'est est-ce que les forêts sont cotées en bourse?
Il y a des fonds de dotation qui sont en train de se développer, notamment par le RAF. C'est le réseau pour les alternatives forestières, qui est un réseau de sylviculteurs, de forestiers, de charpentiers, enfin qui part de la poutre, enfin qui part de l'arbre à la poutre entre guillemets, donc qui touche toute la filière. Et ils sont en train de développer aussi des filières courtes en Ardèche, dans la Drôme, enfin là d'où je viens, moi je viens de la Drôme et du Vercors, il y a beaucoup de choses qui se développent là-bas. Et notamment des fonds de dotation aussi pour racheter collectivement des forêts. Il n'y a pas beaucoup de liens avec le CRPF. Le CRPF, on va dire que c'est le système de régulation, un peu comme la chambre d'agriculture, c'est le système de régulation et de concertation des acteurs de la forêt privée, quoi, et en lien avec la DDT. Il y a des ententes cordiales, on va dire, mais la CRPF, elle applique la loi, quoi. Elle applique les règles, les plans de gestion, au-dessus de 25 hectares, tout ça, quoi. Mais c'est pas vraiment des... Il y a des gens ultra alternatifs dans le CRPF, mais pas qu'eux aussi. Hein. Et la deuxième question, c'était... coté en bourse. Je crois pas. Mais par contre, c'est une valeur, c'est pas coté en bourse, mais plusieurs entreprises qui ont des forêts sont cotées en bourse et l'utilisent pour avoir des abattements fiscaux. Et c'est pas pour rien, en fait, qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans les forêts. C'est parce que, je le disais, c'était une manière de payer moins d'ISF, hein. Quand il existait. Mais même maintenant, ça paye moins de... Vous savez, on a transformé l'ISF en impôt sur la fortune immobilière et les abattements sur la forêt sont restés. Hein. Donc voilà. Et pour en cas de succession et de donation aussi, il y a des gains possibles. Donc voilà, c'est quand même un outil fiscal, la forêt, aujourd'hui. C'est pas seulement un lieu de promenade ou un lieu de biodiversité, un espace naturel, c'est aussi un outil fiscal.
Comment peut évoluer un bûcheron maintenant ?
Évoluer, c'est-à-dire ?
Quelle peut être sa vie ? Est-ce qu'il est condamné à être tâcheron ?
Tant qu'il n'y a pas d'évolution législative, tant qu'il n'y a pas d'évolution réglementaire, il y a quand même des bûcherons qui sont salariés, mais c'est très rare. En Suisse, ils sont tous salariés. Après, il y a des choses qui se développent, qui sont très intéressantes, qui sont... Il y a des formations qui se développent dans les Hautes-Alpes pour que le bûcheron soit aussi gestionnaire forestier. C'est-à-dire que ce soit lui qui sélectionne le bois qui coupe, c'est que ce soit lui qui ait une vision un peu macro en fait, de sa forêt et qui puisse gérer la forêt complètement, qu'il ne soit pas juste un tâcheron et donc qu'il soit plus polyvalent. Et il y a des formations, on va dire, alternatives qui se développent. Qui sont...
Le Gabion.
Pardon ?
Le Gabion, non, qui organise ça.
C'est Alpes de Haute-Provence. Vers Sisteron, pas très loin de Sisteron. Mais ça reste anecdotique. Et en fait, c'est quoi l'avenir des bûcherons en ce moment? C'est ce que je vous disais. Il y a quand même pas mal de conducteurs d'engins. Même si évidemment ceux qui avaient la tronçonneuse n'ont pas forcément envie de devenir conducteurs d'engins, mais c'est plutôt qu'ils partent à la retraite et qu'il y a d'autres jeunes qui les remplacent mais qui n'ont pas les mêmes savoir-faire. Et leur avenir, c'est les travailleurs détachés aussi, comme on en parlait. Faut aller dans le Morvan, faut aller dans le Morvan et voir que dans certains territoires, ça parle plutôt slave. Hein. Dans les forêts du Morvan, ça parle slave parce que c'est avant tout pas mal de Roumains et dont l'inspection du travail ne mène pas beaucoup d'enquêtes pour savoir qu'est-ce qu'ils gagnent, s'ils sont bien payés ou pas, quoi. Et puis il y a de moins en moins de bûcherons. Les entrepreneurs de travaux forestiers, leur nombre diminue. Hein. C'est comme on a parlé de la fin des paysans. C'était Mandras, un sociologue, qui avait parlé de la fin des paysans, mais on pourrait très bien parler de la fin des bûcherons aussi, quoi. Avec la perte aussi de savoir-faire, la perte d'une culture aussi liée à la forêt, liée à habiter la forêt. Enfin, c'est une hémorragie quand même. Et c'est aussi la perte d'un rapport au monde, moi, je pense. C'est ça qui est dangereux. Mais il y a des bûcherons dans la salle, donc peut-être qu'ils veulent faire un témoignage. Je le sais.
Oui, question ? Oui, ici. Est-ce que vous pourriez vous préciser le rôle des grandes coopératives, telle Alliance par exemple, et est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit d'intérêts entre des coopératives qui font du conseil en gestion, qui font aussi de la coupe, si j'ai bien compris, qui sont parfois aussi les pépiniéristes qui remontent?
Ça y est, t'as la réponse dans ta question un peu. Mais Alliance Forêt-Bois, c'est 15% du bois commercialisé en France. Donc, c'est une grosse coopérative forestière, un peu comme les coopératives agricoles. Au début, on se dit c'est un super outil, et finalement, leur but et leur objectif est un peu est dévié, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est 40 000 adhérents quand même, Alliance Forêt-Bois, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une grosse boîte. Et c'est le premier, comme tu le disais, c'est le premier pépiniériste français avec sa filiale Forlit. Il faut savoir, il n'y a plus beaucoup de pépiniéristes aujourd'hui. Donc une fois que Forlit décide de plus distribuer telle essence d'arbre, par exemple, ça va être très compliqué de se retrouver avec des essences d'érable sycomore, je sais pas, ou des tas de choses comme ça. C'est très compliqué quand on te propose que des essences résineuses. Et donc, ils détiennent un monopole, en fait. Ils détiennent un monopole avec aussi une sorte de conflit d'intérêts parce qu'ils sont à toutes les chaînes de la filière. Et ils conseillent à la fois... ils achètent le bois, ils conseillent le propriétaire, ils font la coupe de bois, enfin, donc ils le commercialisent. Donc ils sont partout, en fait. Et donc c'est une vision un peu monopolistique qui interroge. Et pour rien te cacher, dans les évolutions législatives qui sont en réflexion aujourd'hui au sein de la commission d'enquête la parlementaire et citoyenne, là, que j'essaye de coordonner, il y a cette question des conflits d'intérêts qui est primordiale. Ouais. Et ça me paraît important parce que cette Alliance Forêt-Bois, je vais vous lire un petit extrait. Tiens. Alliance Forêt-Bois, c'est quand même le président, là je vous le disais, c'est Henri de Serval qui était dans les Landes et qui aspergeait ses parcelles de glyphosate. Hein. Donc ça, c'est le président d'Alliance Forêt-Bois, quoi, la première coopérative. Il faut savoir que cette coopérative, elle peut distribuer le label PEFC. Hein. Donc, c'est marrant. Hein. Je vais juste dire, elle a. Alors. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ah oui. Il disait « La forêt est avant tout une entreprise. Nous ne pouvons pas assouvir les fantasmes de tous les citadins. Nous ne supportons plus d'être la caution de tous ceux qui polluent notre planète et qui, pour se donner bonne conscience, nous interdisent de travailler. » Donc ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et alors, quand on avait essayé de parler du glyphosate, il a dit « Ah, on ne peut pas parler du glyphosate en forêt. Alors je n'en parlerai pas, parce qu'il y a des médias et des groupuscules de militants qui condamnent à mort ce produit. » Il avait épandu sur plusieurs dizaines d'hectares du glyphosate, quoi. Il s'était fait un peu épingler quand même, ça le faisait mal, quoi. Mais c'était marrant parce que c'était au même moment où il y avait le débat à l'Assemblée nationale sur l'agriculture. Et on avait moins parlé de ce qui se passait en forêt. Bon, après, c'est des proportions beaucoup moindres. Mais quand même, je trouve que c'est important de se dire qu'il y a des produits phytosanitaires en forêt, quoi. Et que c'est des personnes comme ça qui sont aux manettes, quoi.
Oui. Tu as évoqué tout à l'heure la cession de Transilva.
Oui.
On a une idée de la, du pourcentage de superficie qui est gérée en Transilva pour
on parlait de la proportion de la gestion en futaie jardinée ou en futaie irrégulière. Vous savez, cette alternative qui est un peu... l'agriculture biologique, en fait, pour résumer caricaturalement, l'agriculture biologique de la sylviculture, quoi, la sylviculture biologique. Il y a 300 propriétaires forestiers qui sont pro-Silva en France. Il y a une partie de la forêt publique qui est aussi en futaie irrégulière. On dirait une bonne partie de la forêt domaniale. On chiffre à peu près sur les 16,9 millions d'hectares, on chiffre à peu près à 1 ou 2 millions d'hectares. Et en plus, après, il y a de la forêt qui n'est pas gérée aussi. Forêt publique-privée, ouais, on est autour de 2 millions d'hectares. C'est... Mais c'est très difficile à chiffrer. Moi, j'ai cherché à tout prix à quantifier. ProSilva, c'est que 300 propriétaires, donc c'est pas rien. Je vous disais, Alliance Forêt et Bois, c'est 40 000 propriétaires. Donc, c'est pas... En fait, on est vraiment... C'est comme si on était 20 ans en retard par rapport à l'agriculture biologique, par rapport à l'agriculture. On est 20 ans en retard, et c'est tant mieux par rapport à l'avancée de l'agriculture industrielle. La sylviculture industrielle, c'est pas implanté partout. Mais aussi, on est 20 ans en retard par rapport aux alternatives, quoi. Donc, ça commence à se développer, ça commence à se généraliser, mais voilà, ça reste encore difficilement quantifiable. Sinon, on m'avait posé des questions sur la biomasse aussi, un peu, là, sur les copeaux de bois, sur les granulés. Allez, vous pensez, c'est qui le premier producteur de pelés en France ? Ah, c'est bon, vous êtes bien renseigné. Oui, c'est Total. C'est Total qui est le premier propriétaire de pelés aujourd'hui. C'est juste pour vous dire, et c'est ce que raconte très bien Jean-Baptiste Vidalou, là, dans son livre Être forêt, là, qui est présent. Il dit qu'il n'y a jamais eu de substitution d'une énergie à une autre. On n'a jamais remplacé le charbon, en fait, par l'hydrocarbure. On a toujours fait une addition, en fait. Et donc, c'est très bien, on le voit bien. C'est la politique de Total aujourd'hui, à la fois être dans les hydrocarbures, à la fois dans la biomasse ou ailleurs. Et par exemple, c'est assez intéressant, Orano ex Arriva, se disait qu'elle était une pirogue polynésienne. Alors, vous savez ce que c'est une pirogue polynésienne ? C'est à la fois, il y a une grosse barque, et ça disait, ça c'est le nucléaire, mais pour tenir la grosse barque, il lui faut une petite pirogue juste à côté, et ça c'est les énergies renouvelables. Ça c'est Anne Lauvergeon qui disait qu'il y avait cette formule-là. Et donc aujourd'hui, Areva développe la torréfaction du bois, justement, pour en faire des granulés. Le CEA bosse beaucoup dessus aussi. Il faut imaginer que moi, juste à côté d'un territoire où j'ai habité, là, je vous en ai pas trop parlé, mais à Bure, là, donc dans l'est de la France, le CEA, Areva et toute la filière nucléaire veut à la fois enfouir les pires déchets radioactifs, les pires rebuts en fait toxiques de notre modernité. Ils vont être toxiques pendant des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années. Enfin, je vous rappelle que 80 000 ans, c'était... Enfin, le crotte de Lascaux, c'est moins 27 000 ans. C'est 27 000 ans. Et donc là, ça va être des déchets radioactifs pour des centaines de milliers d'années. Et ben, en parallèle de leur projet un peu démentiel, là, et ben, ils développent aussi le projet Saint-Diès qui vise à faire de la biomasse à faire en fait du pétrole vert pour les voitures, donc utiliser en fait le bois des forêts lorraines pour essayer de faire rouler des voitures. Et donc ça, c'est tout un travail du CEA. Donc le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique, mais qui est maintenant le CEAA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et donc voilà, donc les deux bouts sont tenus, en fait, c'est ça. On aura du nucléaire, des hydrocarbures, du charbon et aussi de la biomasse. Et ça, la biomasse, elle se développe de manière conséquente, en fait, depuis 2010, quoi. Et tant qu'on ne posera pas la question de l'avidité consumériste et de l'avidité, en fait, de notre consommation en énergie, et bien, on continuera dans ce sens-là, quoi. Et ça, ça me paraît très important de voir que des industriels qui sont quand même pas innocents sur les conséquences... de là où on en est aujourd'hui, eh ben, se repositionne dans la biomasse, doit forcément nous interroger, quoi. Enfin, Total, c'est quand même Erika, c'est quand même des forages au large de la Guyane, c'est quand même beaucoup de choses. Et donc, voilà, il faut que ça nous interroge. Pourquoi ils vont dans la biomasse? Tout d'un coup, c'est une envie vertueuse?
Oui, tout à l'heure, tu avais dit que tu n'avais pas parlé du tout du changement climatique et il y avait de quoi dire sur la forêt.
Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire. Non seulement, le premier constat, c'est que la forêt, elle risque d'être malmenée par le réchauffement climatique. Indéniablement, sécheresse, il y a aussi l'invasion de pathogènes. Il faut imaginer que dans l'est de la France, il y a une invasion en ce moment de scolytes. Ça fait 5 mm, mais ça ravage les cœurs des épicéas. Et donc ça se reproduit deux fois plus vite avec le réchauffement climatique. Ils se reproduisent quatre fois en fait dans l'année maintenant. Et donc ça ravage les épicéas, mais surtout ça ravage les épicéas qui ont été plantés de manière très dense et dans les plaines. Et donc ça montre la conséquence en fait que peut avoir la monoculture industrielle en fait. Et c'est vrai que ça c'est assez grave en fait. C'est comme en fait quand on met 100 000 poulets sur 1000 mètres carrés, forcément les maladies elles se reproduisent plus rapidement. Et ben là c'est un peu la même chose avec les IPCA. Donc voilà, on a des invasions de pathogènes, on a des sécheresses, on a des manques d'eau. Faut imaginer que avant on parlait dans le quand il y avait des sécheresses, on parlait des arbres qui fanaient, comme on parlait de coquelicots. C'était une expression des forestiers pour parler des sapins qui devenaient tout rouges. Et aujourd'hui, on ne parle plus de coquelicots parce que c'est des massifs entiers qui sont tout rouges, notamment dans le nord, dans les Ardennes. C'est assez dramatique, quoi, dans les Vosges aussi. Donc là, il y a quand même une adaptation nécessaire des forêts françaises, en tout cas. Et dans cette adaptation, eh ben, pareil, on voit arriver des industriels qui vont nous proposer des solutions clés en main. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que lutter contre le réchauffement climatique, c'est plutôt contraignant pour des entreprises. Il va falloir changer son process de production, il va falloir changer son système, il va falloir limiter l'émission de gaz à effet de serre. Par contre, l'adaptation, ça ouvre de nouveaux... L'adaptation au réchauffement climatique, ça ouvre des nouveaux débouchés, des nouvelles perspectives de profit. Et là, ce qui se développe beaucoup, c'est qu'on veut simplement substituer des essences à d'autres. On nous dit, bah écoutez, le hêtre et le chêne, c'est vraiment pas bon là pour la forêt française. Donc par exemple, dans la forêt de Mormal, dans le nord, on va faire des coupes énormes de hêtres et de chênes. Et c'est l'ONF qui va faire ça en disant, mais écoutez, de toute façon, cette essence ne sera pas adaptée au réchauffement climatique. Donc on en profite pour couper plus. Ou d'autres comme Alliance Forêt-Bois en Aquitaine, qui va dire... Bon, là, c'est pas bon, nos essences là, franco-françaises. Là. Va falloir penser à autre chose. Je vous propose l'eucalyptus. Et donc, ils sont en train de développer des idées de plantation d'eucalyptus. Ils avaient déjà essayé de faire ça dans les années 70, juste après la terrible sécheresse qu'il y avait eu. 74, 76, je sais plus. 76. Ah, il y a... Ok. Et donc, à ce moment-là, ils avaient déjà essayé de faire des plantations d'eucalyptus, et puis ça avait gelé l'hiver juste après, parce que c'était pas du tout adapté. Et il faut savoir que ça a des conséquences aussi, l'eucalyptus, parce que c'est un désert biologique, et c'est une forêt allumette. On l'a vu, dès qu'il y a un incendie au Portugal, en Espagne, c'est pour ça qu'il y a des gros incendies, c'est aussi lié aux plantations d'eucalyptus. Donc c'est quand même un danger. Et oui, voilà, autre conséquence du réchauffement climatique, c'est aussi, on parle tous des méga-feux en Australie, alors évidemment, on n'aura pas les mêmes méga-feux, et je l'espère bien, en France, mais par contre, on va avoir un accroissement des risques d'incendie de manière très conséquente, et ça, c'est une étude, j'avais fait un papier dessus, là, il y a deux semaines, sur Reporter, où il y a une étude de 2010 des services météo et de l'IGN, qui montrait que en fait, la moitié des massifs forestiers français allaient être soumis au risque d'incendie en France. Et donc que ça allait dépasser la Loire. Et aujourd'hui, on a eu en 2019 des feux d'incendie en Bretagne. C'était jamais arrivé auparavant, quoi. Et surtout, ça s'est propagé parce que la végétation était asséchée. Et donc il y a aussi ce danger-là, quoi. Et voilà.
Par rapport aux feux de forêt, est-ce qu'on a du recul sur des forêts qui ont brûlé et qui commencent à se régénérer? Parce qu'il y a des espèces de plantes qui, pour germer, ont besoin de...
En fait, le feu en soi, il faut réapprivoiser le feu, il faut retrouver une culture du feu. Le feu n'est pas un problème en soi, et notamment pour certaines espèces ou pour certains écosystèmes, notamment dans l'arc méditerranéen. Mais c'est faux, par contre, dès que tu dépasses la Loire et d'autres écosystèmes, là, ils ne sont pas du tout adaptés au feu. Et juste pour l'arc méditerranéen, en fait, le problème, c'est qu'il risque d'avoir une plus grosse fréquence de feu. Et donc, la nature n'aura pas le temps de se régénérer entre les différentes fréquences de feu. Et donc, le système va se stériliser et s'appauvrir petit à petit. Donc, c'est une question vraiment de fréquence et qui va se multiplier. Mais après... il y a eu, et c'est assez intéressant ce qui se passe, notamment en Corse. Il y a aussi un allongement en Corse de la saison du feu. Maintenant, la saison du feu, elle dure plus de 5 mois, donc presque la moitié de l'année, quoi. C'est assez considérable. Mais on se renouvelle en fait la lutte contre l'incendie grâce justement à des pratiques un peu ancestrales et des pratiques paysannes, justement, d'éco-buage. Enfin, il y a certaines pratiques qui existent et qui permettent de limiter... l'incendie. Il faut imaginer aussi que, alors il y a des risques d'incendie plus importants, mais l'incendie est quand même avant tout lié à l'activité humaine, du fait de l'urbanisation, du fait d'accidents, du fait aussi d'actes malveillants. Et donc quand même il y a 80% des, et c'est un vrai chiffre, il y a 80% en fait des départs d'incendie qui sont liés à l'activité humaine. Donc c'est ça. La probabilité de risque d'incendie à cause de l'assèchement de la végétation va augmenter, mais tu vois, le risque reste d'abord humain.
Après les grandes tempêtes de 2019, les deux, il me semble que c'est l'ONF qui a décidé de faire des réserves naturelles d'évolution de la forêt abattue. Est-ce qu'il y a déjà des conclusions, on est 20 ans après, est-ce qu'il y a des conclusions là-dessus déjà, régénérescence de la forêt renouvellement, bref.
Je ne saurais pas te dire. Je sais que j'ai visité plusieurs réserves biologiques intégrales, tu vois, mais je ne sais pas si elles étaient... Je ne saurais pas te dire après 99 qu'est-ce qui s'est passé et comment la forêt s'est renouvelée. Mais je suis sûr, oui, que la forêt, elle peut traverser des obstacles comme ça, c'est clair, tu vois. Et c'est vrai que c'est assez dramatique ce qui s'est passé au nord de Lyon, dans le Beaujolais notamment, où la tempête de 99 a vraiment servi à un enraisinement de la région. C'est-à-dire que ça a permis de planter énormément de Douglas notamment, alors que la tempête a fait table rase et c'était tant mieux en fait pour l'industrie, quoi. Mais je ne saurais pas te dire pour les réserves biologiques intégrales.
Deux petites observations. Tu parlais du changement climatique. L'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère a entraîné quand même une augmentation de la croissance des arbres. Il y a une vingtaine d'années déjà, l'ONF avait dû revoir à la hausse ses coupes de l'ordre de 4%. Je ne sais pas quel est le chiffre à l'heure actuelle. Deuxième observation, c'est un petit scoop que je te donne pour reporter. Et ce n'est pas un calgar. Je sais, de source assez sûre, qu'il y a actuellement des études, des pré-études pour l'implantation éventuelle d'EVA en Auvergne. Tu as entendu parler de ça?
Mais cèbres du Liban, il y a aussi du pin de Turquie. Enfin, vraiment, il y a l'idée de. En fait, c'est ça. Il faut. C'est quoi la solution? Enfin, quelle réponse on a au réchauffement climatique? Soit les industriels nous disent on va substituer des essences exogènes qu'on va faire venir d'au-delà de la Méditerranée pour substituer. On pense il y a le pin d'Alep, il y a le cèdre du Liban, enfin il y a peut-être des eucalyptus, enfin il y a différentes essences. Soit sinon on décide au lieu de substituer des essences à d'autres, de réfléchir à créer un écosystème qui soit résilient. Et c'est ça le problème, c'est qu'eux ils pensent essence par essence et pas résilience dans un écosystème. La forêt c'est avant tout un écosystème et il y a quand même des études vraiment scientifiques de la revue Nature ou de la revue Science qui montrent qu'une forêt diversifiée, avec un écosystème diversifié, feuillu, mélangé à des résineux, tout ça, est bien plus forte aux aléas climatiques, bien plus forte aux tempêtes, bien plus forte aux sécheresses, bien plus forte aux hausses des températures. Et donc c'est ça en fait. Et on l'a vu, c'était avec l'exemple du scolyte et des épicéas qui ont été plantés dans les plaines en Ardennes, dans les Ardennes ou dans la Meuse, et ben toutes ces plantations de monoculture résineuse, elles tiennent pas face au réchauffement climatique, elles s'effondrent. Et donc c'est ça en fait là un enjeu qui est assez important quoi. Et donc réfléchir à la résilience d'un écosystème plus qu'à une substitution d'essence, je pense que c'est important.
J'avais aussi une petite question. Est-ce que dans la Drôme, dont tu es originaire, le dis-tu, tu constates un phénomène qui est en train de se généraliser dans une région du Lot que je connais un peu, la région d'Albène, où on remplace les truffières traditionnelles par ce que j'appellerais les truffières industrielles, c'est-à-dire des rangées d'arbres qui proviennent des pépinières sur des hectares et des hectares, au détriment sans doute de la qualité de la truffe traditionnelle?
Alors, notre truffe est toujours très bonne, hein, je tiens à préciser, dans la Drôme, nous, la nôtre. Mais ça reste le meilleur. Mais oui, il y a beaucoup de plantations, de chênes truffiers et de petits chênes truffiers en ligne. Oui, certainement quoi. Après, ça représente pas une superficie énorme hein, quand même en France et notamment dans la Drôme quoi. Dans la Drôme, ce qui est plutôt dangereux là, c'est à Tricastin et à Pierrelatte, il y a des usines à biomasse qui se développent, et notamment une usine d'enrichissement d'uranium qui va marcher à la biomasse. Il y a aussi Gardanne, qui n'est pas très loin. Mais attendez, ce n'est pas qu'une usine d'enrichissement d'uranium, ça chauffe aussi une piscine à crocodile, donc c'est pas mal, s'il vous plaît. Non, mais on a des usages quand même intelligents quoi, de la biomasse, quoi, je veux dire. Ça participe à l'attraction touristique de la Drôme. Et donc, non, mais il y a quand même ce qui est plus dangereux dans la Drôme, c'est l'utilisation de la biomasse quoi, qui se développe majoritairement. Et on voit aussi que c'est plus tellement... en fait, la biomasse, maintenant, c'est des forêts entières qui sont utilisées. C'est des arbres entiers, en tout cas, des troncs entiers qui sont utilisés pour faire de la biomasse, quoi. Ce qui n'était pas le cas à l'origine, quoi, et notamment juste pour produire de l'électricité. Il y a une autre aberration que j'aimerais vraiment, faut que je vous raconte quand même ça, à Gardanne. Donc c'est, je vous le disais, 800 000 tonnes de bois par an, sauf que en fait les forêts du Var, les forêts cévenoles, il n'y a pas assez de bois. Donc dans leur business model, ils se sont dit on va aller importer 50% du bois qui vient des forêts boréales du Canada. Et tout ça, on va réussir à le faire valoriser énergie verte grâce à des subventions publiques. Et donc, c'est quand même un système complètement aberrant. On va faire venir en paquebot jusqu'à Marseille, puis après, on va les charger en grumier et on va les faire venir brûler dans l'usine à biomasse de Gardanne en disant que c'est de l'énergie verte. Enfin, et puis, il faut aller demander à ce qui se passe aux associations autochtones au Canada, quoi, et dans les forêts boréales qui sont mises quand même... en coupe réglée, quoi. Donc c'est quand même assez ahurissant. Alors en France, pour l'instant, ça n'a pas commencé. C'est encore dans les business plans de Gardanne, mais c'est écrit noir sur blanc. C'est un truc pensé par des ingénieurs et des industriels et rentable hein, pour eux. C'est quand même plusieurs millions d'euros par an qu'ils vont avoir de subventions publiques. Hein. Et par contre, en Angleterre, ça existe massivement. Faut imaginer que le bois qu'on utilise dans les usines à biomasse en Angleterre est 6 fois supérieur à la production et à la coupe de bois totale en Angleterre. Donc ils sont obligés, l'usine de Drax consomme consomme 11 millions de mètres cubes de 11 millions de mètres cubes oui, de bois et si je me trompe pas l'Angleterre produit 9 millions de mètres cubes de bois. Donc rien qu'une usine est supérieure, elle fait 120% de la production nationale de bois. Donc ils sont obligés, ils importent 5 millions de mètres cubes rien que pour cette usine, quoi. L'usine de Drax, vous regarderez, c'est complètement aberrant. Là, je suis en train d'écrire quelque chose dans le monde diplomatique sur cette usine, parce que c'est quand même une situation complètement aberrante. Et tout ça, en plus, avec le grand saut, validé, énergie verte, quoi. C'est ça qui est aberrant. Non seulement on a les industriels comme Total qui ont quand même contribué à une certaine forme de pollution quand même, hein, et ou les lobbies nucléocrates, et en plus, ils arrivent à avoir un label énergie verte. Donc...
Pour avoir un peu travaillé dans ces milieux de biomasse, énergie, etc., moi j'ai un petit espoir quand même.
Il n'y a pas que ça. Hein.
Non, non, mais par rapport à ça, donc, je suis pas. L'espoir, c'est qu'en fait, ces entreprises-là, elles ne sont pas rentables. Ouais. Aujourd'hui, tout ce milieu-là, il marche à la subvention en partie. Et même ceux qui ne marchent pas à la subvention, ils marchent à la panache à billets américaine, sur le pétrole schiste, sur la biomasse canadienne. En fait, tous ces endroits-là, le temps de retour énergétique, c'est-à-dire que le kilowattheure investi pour un retour des kilowattheures, il est très, très, très mauvais. Ouais. Donc depuis 10 ans, on a un éclatement de ce taux de retour énergétique. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que depuis la crise de 2007, qui a fait monter le 150 $ au baril avec le pic pétrolier du pétrole conventionnel, en 10 ans, on a une planche à billets qui tourne énormément, qui finance toutes ces entreprises-là, qui sont aujourd'hui du coup rentables sur le papier. Mais dans les faits, elles ne sont pas rentables, c'est-à-dire qu'elles ont un cash flow qui est négatif. Donc l'espoir que j'ai, moi, c'est que ça se pète la gueule. C'est-à-dire que ce monde-là ne tienne pas debout. Ils le savent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils investissent dans la biomasse, ils savent très bien que c'est moins rentable de ce qu'ils faisaient avant. Mais ils n'ont pas le choix, ils ont c'est l'empilement énergétique, ils sont obligés de continuer. Et ça, donc, enfin, est-ce que vous, dans le milieu de la forêt, est-ce que la rentabilité, elle les attire parce qu'ils n'ont rien d'autre? Comme ce que j'ai constaté à mon milieu, c'est ça. Ou est-ce qu'ils ont trouvé des vecteurs pour créer de la richesse réelle pour eux? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un business model qui se tient pas.
Non, c'est artificiel en fait. Ça dépend que des subventions publiques. Et c'est là où l'enjeu il est ultra intéressant pour nous tous et nous toutes. C'est la question politique, c'est le levier politique. Et c'est la pression qu'on doit mener de dire mais attendez, pourquoi on subventionne ces usines gigantesques? On peut créer autant d'emplois en fait avec des petites usines à biomasse qui ne créent pas de l'électricité, mais créent simplement de la chaleur. Et ça existe en fait dans certains territoires. Et c'est très bien, ça fonctionne bien. On va chauffer une salle des fêtes, un lotissement de 5-6 maisons, et l'école et la mairie. Mais pas plus, quoi. On va pas essayer de faire. Comme l'usine de Gardanne qui va produire l'électricité pour toute une région en fait. Enfin, c'est considérable quand même. Et donc oui, voilà, il faut revenir à les bases en fait de ce que disait l'écologie politique dans les années 70. Vous savez, on disait small is beautiful. Et ben, c'est un peu à ça qu'il faut revenir, quoi, une relocalisation, à retrouver. Sortir de la démesure, quoi, en fait. Et en fait, la démesure, ça ne fait rêver que les industriels et les politiques qui voient emploi, qui voient capacité de développement de leur territoire, mais ça repose sur du vide, ça repose sur des subventions publiques, ouais.
Deux questions. Quels sont les groupes qui n'ont pas participé à la commission d'enquête parlementaire les groupes politiques. Et la seconde question, c'est est-ce qu'avec cette commission d'enquête parlementaire, la question de la naturalité a été prise en compte, de zones laissées en régénération totale?
Ça a été, c'est un débat en fait. Il faut imaginer cette commission, moi c'était juste un moyen de, après le bouquin, essayer de traduire d'un point de vue politique des recherches qui étaient plus de l'ordre journalistique. Et parce que moi j'ai toujours été à croiser en fait. Enfin, moi, je suis pas pour la neutralité axiologique du journaliste. Hein. Moi, je pense que vous l'avez compris, ça. Je suis pour un journalisme engagé, quoi, et militant, et où finalement, ça nous permet le bouquin ou un livre nous permet d'avancer sur des questions politiques, quoi. Et donc, on a créé cette commission. Cette commission, elle est, il y a tous les groupes de gauche. Alors, ils sont pas tous, ils suivent pas tous de manière très assidue. Mais disons qu'il y a aussi des noms affiliés. Il y a Delphine Bateau, qui était l'ancienne ministre de l'écologie, qui, maintenant qu'elle n'est plus au PS, on a l'impression qu'elle s'est un peu libérée de certaines choses. Mais bon, après, ce qui est surtout intéressant, moi, c'est pas tant les politiques. Bon, il y a aussi la France Insoumise, évidemment. C'est plutôt Mathilde Panot qui porte beaucoup ça, qui est la vice-présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Europe Écologie Les Verts suit ça, mais vu qu'ils n'ont plus de parlementaires, ils suivent ça, quoi. Mais ils ne vont pas voter, quoi. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est avant tout quelque chose d'associatif et de citoyen, quoi. C'est-à-dire que c'est l'association SOS Forêt qui a lancé ça. C'est l'intersyndicale de l'ONF, donc CGT Forêt, Solidaire, le SNUPFEN. Et moi, ce qui m'intéresse, c'était de rallier tout ce petit monde, à la fois des politiques, de l'intersyndicale pour les travailleurs de la forêt, et aussi les associations écologistes, et de voir qu'on pouvait se parler, de voir qu'on pouvait avoir aussi une ligne politique commune, et que l'écologie n'était pas séparée du social, quoi, et qu'on pouvait porter tout ça dans une critique cohérente en fait de la sylviculture industrielle. Et donc voilà, on a plutôt confiance pour arriver à faire émerger des choses. Alors après, évidemment, la majorité LREM n'y participe pas. C'est étonnant. Mais j'ai rencontré Anne-Laure Catelot, qui est une députée LREM du Nord, qui avait été très impliquée contre les coupes rases dans la forêt de Mormal, qui avait dit « Mais vous savez, les coupes rases, ça peut se réguler. Regardez ce qui se passe en Suisse, regardez ce qui se passe en Allemagne. On peut interdire les coupes rases. Moi, je voudrais interdire les coupes rases dans la forêt de Mormal. » Je me suis dit « Ah bon, bah, tiens, acte, allons voir. » Elle est devenue, en plus, la députée... a été missionnée par Emmanuel Macron, là, récemment, pour faire un rapport sur la forêt. Donc, nous, on lui a dit qu'on avait une petite commission d'enquête. Et, bon, elle s'est montrée intéressée, mais on n'est pas dupes, hein. On n'est pas dupes, en fait. Enfin, bon, on verra bien, on va faire pression, quoi. On va bien voir, mais bon. On pense que sur les coupes rases, on peut gagner. On va déposer, donc, une proposition de loi en mars, là. On n'est pas sûr qu'elle soit même examinée hein, par l'Assemblée nationale, mais on espère qu'on va pouvoir réussir à faire signer pas mal de monde, à faire monter le sujet aussi médiatiquement. Donc il y a des possibilités. Et Peter Volleben va peut-être être le parrain de cette proposition de loi. Donc voilà, il y a des choses assez rigolotes qui sont en train de se faire. Mais voilà, LREM sont dans une position, enfin dans un double discours assez aberrant, quoi. Enfin, c'est comme tout. Hein. Au même moment où elle, Anne-Laure Catelot, nous disait « Je viens d'être missionnée sur les forêts, je veux vraiment qu'on fasse des grandes choses pour la forêt, pour ses travailleurs », au même moment, on apprenait, là, je publiais un article là, sur Reporter pour montrer à quel point la privatisation s'accélérait à l'ONF avec une contractualisation massive, en fait, des employés, donc enfin voilà, on voit les logiques néolibérales avancent au sein des services publics. Hein. Oui, oui, oui. Alors ça a été abordé justement pour des zones de réserve, naturalité. Quand bien même la naturalité, c'est un sujet un peu complexe parce que toutes nos forêts françaises, en fait, elles sont il n'y a pas de forêt vierge, quoi, tu vois. Ça a toujours été des forêts travaillées par l'homme, et c'est ça qui est intéressant aussi. Ça a toujours été un lien, en fait. Qui voit la nature voit l'homme, en fait. Ça a été toujours une alliance entre les deux, et en tout cas dans la forêt française. Mais aussi, quand tu lis des travaux d'anthropologues dans la forêt amazonienne, c'est très intéressant de voir les pratiques qu'avaient les Indiens en forêt amazonienne, hein. Et ça, Descola l'a beaucoup raconté, ou d'autres. Et donc moi, la naturalité, enfin, c'est toujours un degré, quoi. Il faut. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes qui se passent. Dans le Vercors, il y a eu l'achat là d'une parcelle qui devait être dédiée aux chasseurs, et finalement, c'est des écologistes qui l'ont acheté et qui veulent en faire une réserve biologique naturelle. Hein. C'est sur plusieurs dizaines d'hectares. Je crois que c'est la Frapna qui l'a acheté, ou l'ASPA, ouais. Et donc voilà, et puis nous, il y a cette réflexion de savoir est-ce qu'on réserverait pas des zones de naturalité dans les forêts, oui, typiquement. Et pareil, nous, on voudrait que dans chaque forêt, il y ait aussi des réserves de bois mort, en fait, parce que le bois mort est super important pour les oiseaux, pour les insectes, pour le. Hein, et donc il y a ces réflexions-là, oui.
Je voudrais vous poser une question. Pardon. En attendant qu'il y ait la loi contre les coupes rases, qu'est-ce qu'on peut faire quand on constate qu'il y en a une qui est en train de se faire, là, chez nous, pas loin d'ici, dans la forêt de Robinier, de la Weiss, sur le bassin de Casville. Du jour au lendemain, on a vu arriver des engins énormes et ils sont en train de tout massacrer. Là, tout le monde a protesté, donc ils ont arrêté pour le moment parce qu'avec le mauvais temps... C'est pareil qu'il y a eu la guerre et dans un endroit qui était emprunté par beaucoup d'usagers.
Juste pour apporter un complément, la forêt de la Weiss, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une forêt qui se trouve entre Aubin, Firmy et Cransac à peu près, sur ce territoire. Cette forêt, c'est presque exclusivement une forêt de
l'acacia
de Robinier. Et c'est la plus grande forêt d'un tenant d'Europe, en Robinier. Voilà.
Ah, l'ONF m'a dit que
Elle a dit que...
J'ai eu l'ONF avant-hier, elle m'a dit que c'était pas vrai.
C'était pas vrai, mais enfin, elle est très grande.
Aujourd'hui, les robinets servent à faire ce qu'on appelle TCR ou TTCR. Donc, c'est des taillis courtes rotations et des taillis très courtes rotations. C'est pour faire du biocarburant à travers de la biomasse. De plus en plus, alors c'est sûrement pas la forêt, c'est coupé tous les 7 ans, tous les 3 ans. Et donc, ces acacias-là sont coupés pour ça. Enfin, pas forcément pour votre forêt, parce que c'est sûrement une vieille forêt d'acacia. Mais. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je sais que ce qui est juste
servi, techniquement, il a beaucoup servi au boisement des mines.
Ah bah oui.
Et depuis.
Ils n'utilisaient pas des résineux plutôt?
Non.
D'accord. Et donc ce qui est vraiment d'abord c'est intéressant ce que vous racontez sur la violence en fait. Quand on assiste en fait à une coupe rase, c'est une violence. C'est comme je disais, c'est quelque chose de l'ordre de l'extractivisme, en fait, quand on voit ces engins avec ces chenilles qui roulent sur la terre, qui créent des ornières de 1 mètre, vous parlez de la guerre, parce que ça ressemble en fait à des tranchées, en fait. Et moi, tellement de gens m'ont dit, mais c'est Verdun, regarde, c'est Verdun. Et c'est vrai qu'il y a une violence, en fait, dans ça, qu'il n'y a pas, en fait, quand on coupe pied à pied ou qu'on fait. Et surtout, ces machines, elles sont lourdes, et donc elles creusent des ornières énormes, et il y a de l'eau, et après, il y a de l'érosion. Et puis surtout, vraiment, un truc qui est vraiment important, c'est que les abatteuses, une fois qu'on les a achetées, il faut les faire tourner. Ça coûte 500 000 euros quand même, ça coûte 800 000 euros, entre 500 000 au bas prix. Et donc, évidemment, heureusement, il y a encore les subventions publiques. Hein. D'ailleurs, vous savez, le nom de la dernière abatteuse New Age dans le Morvan, il l'appelle Hannibal. Enfin, c'est drôle quand même, Hannibal. Attends, il y en a une qui s'appelle Scorpion, je sais plus. Enfin voilà, Hannibal, bientôt Attila, tu vois, et c'est vraiment ça, c'est une forme de saccage. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah déjà créer des collectifs d'usagers, montrer que la forêt c'est multifonctionnel en fait, la forêt c'est pas que du bois quoi, la forêt c'est pas une usine à bois, et donc voir, il y a sûrement des collectifs d'habitants et d'habitantes qui peuvent se mobiliser, empêcher les coupes. Dans le Morvan ça a été massif, hein. Il y a eu vraiment l'association Adré Morvan, ils ont été c'était une des plus grosses associations du parc naturel régional, plus de 1000 adhérents, et qui étaient très impliqués contre les coupes rases, et qui ont gain de cause parfois. Ils ont même fait des grèves de la faim dans les années 90, et là, tite-tite, ils ont arrêté. Alors bon, j'espère que vous n'allez pas aller jusqu'à faire une grève de la faim quand même, mais enfin, c'est juste vous dire qu'il y avait des gens qui étaient déterminés, et donc oui, créer un collectif, voir s'il n'y a pas des recours juridiques qui sont possibles. Moi, je sais que, par exemple, sur la question de la nidification, il y a des recours juridiques qui ont été vraiment très, très faciles. Nous, on a réussi à retarder des travaux de 4 à 6 mois comme ça. Et dans cet interstice qu'on crée grâce aux recours juridiques, on crée une mobilisation sur le terrain et finalement, ils abandonnent, quoi. Mais donc, oui, il y a des choses qui peuvent être intéressantes en articulant à la fois la pression médiatique, la pression juridique et la pression sur le terrain, quoi. C'est un peu les trois leviers qu'il faut avoir quand on crée un collectif, quoi. Mais voilà, il y a aussi des coupes qui sont difficiles à empêcher, hein. Parfois, on est surpris.
Justement, ça serait bien que tu dises où est le pouvoir politique qui a décidé ces coupes.
La forêt de la Vaille, ça fait partie de l'intercommunalité.
Ah oui,
et ils sont déchargés de sa gestion, la confiant à l'ONF. Et c'est l'ONF qui a fait les adjudications.
D'accord.
Et c'est un exploitant.
Et que dit l'ONF là-dessus? Qu'est-ce qu'elle répond, l'ONF là-dessus? Pourquoi elle fait cette coupe rase?
Ils m'ont pas dit pourquoi. Moi, je les appelais pour leur dire arrêtez le massacre. Ils m'ont dit que ça repousserait, qu'il n'y a pas de problème, que l'exploitant allait tout remettre en état, les chemins, les sentiers, tout ça, tout va être parfait.
C'est ça que j'adore, c'est le propre. Quand ils disent, tout va être propre. Comme un champ propre, voilà. Tout nettoyé.
Non, ça va repousser. Dans 3 ans, ils trieront, ça va repartir des souches, d'après ce qu'ils me disent, mais quand je vois ce qu'ils ont massacré, je ne sais pas comment, ça va repartir des souches, et là, ils font de la sélection, ils garderont que ce qu'ils sont prêts. Bien droit, sûrement.
Il y a quelques questions, là, vous voyez.
Oui, moi j'ai une question, c'est par rapport au Douglas et la mode, on va dire la mode, ou de faire des maisons en eau tapis-roi avec bardeaux, etc. Parce que d'un côté, on nous dit il faut faire un habitat écologique avec du bardeaux, de la structure bois, etc. Et pour le coup, le Douglas, c'est quand même le bois idéal pour faire ça. Et de l'autre côté, on nous dit ah, mais Douglas, comment on
fait ça, mais le bois qu'on utilise, c'est un Douglas qui vient d'où?
Alors, ici, il y a des.
C'est ça qui est.
Non, mais par exemple, peut-être.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que les plantations de Douglas qui ont été faites en France, moi je vais parler du Limousin en tout cas, je le connais bien, Limousin, c'était à l'origine pour faire du contreplaqué. Très intéressant aussi de faire du contreplaqué, ça stocke du carbone, ça permet de construire sa belle maison en bois. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ça sert à quoi, vu qu'il n'y a plus de. D'économie en fait du bois, comme je vous le disais tout à l'heure, et ben ça sert à faire de la palette. Ça sert juste à faire de la palette. Donc en fait, on a un usage bas de gamme même de nos Douglas en France. Les Douglas qu'on utilise pour faire notre bois, certains viennent de France, mais il y en a beaucoup qui viennent d'Allemagne en fait. On importe énormément de bois pour la construction parce que nos Douglas ils sont pas si bons que ça, parce que nos Douglas ils sont pas forcément adaptés au terrain. Et c'est ça qui t'ira, parce que le Douglas, en fait, il pousse bien. Le Douglas, c'est un arbre qui pousse en Californie, d'habitude, hein, Californie du Nord, en fait. Et il y en a des arbres magnifiques de Douglas qui ont 400 ans, en fait, là-bas. Et là, aujourd'hui, les arbres, on les coupe tous les 35 ans, hein, tous les 35 ans dans le Morvan et dans le Limousin. Donc, avant, on voyait, c'est ça qui est fou, hein, on voyait, avant, on plantait des arbres pour des générations futures. Aujourd'hui, on a le temps de voir deux rotations d'arbres, deux révolutions, c'est ce qu'on appelle les révolutions, deux révolutions, c'est énorme. Et en plus, alors l'arbre, quand on le coupe comme ça, il n'est pas mature. Et donc, en fait, pendant ce temps, il prélève tous les minéraux. Et c'est que quand il arrive à maturité qu'il redonne des minéraux au sol. Et donc, en fait, on appauvrit le sol aussi de cette manière-là. Mais juste pour répondre à cette question-là de la maison en bois, mais moi, je trouve ça très bien, cette maison en bois. Moi, dans la Drôme, je me suis construit une cabane en bois. C'était du pin noir d'Autriche qu'il y avait sur notre terrain. Donc, on a fait venir une scierie mobile. Enfin, on était privilégiés. On a pu le faire. Et en circuit court. Et ça, c'était super. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est vraiment cet usage bas de gamme de nos plantations, même résineuses, quoi. Terminées en palette, quoi, pour être trimballées d'un camion à un autre. Et c'est ça, la mondialisation, en fait, de notre époque, quoi. Et c'est triste, quand même, de couper des arbres 35 ans pour terminer en palette avec un usage juste une fois. C'est l'économie du jetable. Et donc, il y a une réflexion dans le Limousin pour développer, justement, des filières de Douglas sur le temps long et donc des arbres qu'on couperait plutôt à 100, 120 ans ou 80 ans et aussi pour faire plutôt du bois de construction, usage noble.
Dans les deux cours, est-ce que vous avez entendu parler des grands dirigeables qui permettaient de tuer dans des zones
non. Non, du tout. Alors je sens peut-être que il y a un sentiment d'impatience. Non, mais je pense que peut-être on va boire un coup et un dernier verre et puis on en discute ensemble. Juste pour vous dire, alors pour conclure, oui voilà, le livre vous pouvez le retrouver en librairie. Je sais qu'on n'avait pas pris beaucoup et vous pouvez peut-être le commander. Ouais voilà, vous pouvez le trouver en librairie. Sinon, nous on est journalistes à Reporter, alors. Qui est le quotidien d'écologie et qui est en libre d'accès, hein, sans publicitaire, sans actionnaire, et qui repose que sur vos dons. Voilà, voilà. Et tu veux conclure, avoir un dernier petit mot ?